1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 58 pour notre méditation de ce jour. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 58. Au nom de Jésus. Lorsque ce qui est mortel se sera revêtu de ce qui est immortel, et que ce qui meurt se sera revêtu de ce qui ne peut pas mourir, alors se réalisera cette parole de l'Écriture : la mort est supprimée, la victoire est complète. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? La mort tient du péché son pouvoir de tuer, et le péché tient son pouvoir de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères chers, mes chers frères, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus zélés pour accomplir l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que le travail que vous réalisez dans l'union avec le Seigneur n'est pas inutile. Amen. Cela fait 3 dimanches successifs que nous tournons autour toujours de la même thématique, si vous avez remarqué, y compris le texte de ce dimanche, la mort. Quel rapport avons-nous vis-à-vis de la mort? On évite trop d'en parler. C'est pour cela qu'on a choisi plutôt l'inverse dans le thème d'aujourd'hui, le sens de la vie, au lieu de dire le sens de la mort. Chaque civilisation, chaque culture, chaque religion a sa propre théorie là-dessus. Le monde a essayé de l'aborder parfois avec de l'humour. Pourquoi? Pour exorciser sa peur. Tellement on a peur de la mort qu'on se moque d'elle dans les jeux. Et même Halloween, c'est un peu dans cette idée-là. On prend ça comme un jeu pour pouvoir gérer sa crainte. En fait, qu'est-ce qui nous fait tellement peur avec la mort? Abordons le sujet, il ne faut pas l'éviter. Je tiens à souligner, ce sujet me passionne particulièrement, car j'avais écrit mon mémoire de fin d'études en master sur la mort à Strasbourg, qui s'intitule « La vision anthropologique sur la mort ». D'ailleurs, dans la culture du pays d'où je viens, notre philosophie et notre pensée est toujours focalisé sur la mort et tout est régulé à partir de la mort dans la façon dont on traite la vie. Chaque point de la vie est souvent traité à la lumière de ce que nous allons, comment on va finir notre vie sur terre. Donc, dès que j'ai vu ce texte, ça m'a touché particulièrement. Donc, vous imaginez, je peux vous en parler des heures et des heures là-dessus. Mais pour résumer mon propos, selon mon humble avis, la source qui alimente notre peur sur la mort, c'est surtout la fausse croyance populaire, et je rajoute, croyance populaire chrétienne. Si je dis croyance chrétienne, c'est autre chose. Et si je dis croyance populaire chrétienne, c'est ce qui nous a été transmis depuis toujours, de génération en génération, avec une compréhension de la mort chez les chrétiens. En quoi consiste cette fausse idée, véhiculée depuis toujours et qui est ancrée en nous intrinsèquement? On nous a fait croire que nous étions des immortels avant la chute. Moi aussi, y compris, j'avais cru cela. Qu'à cause du péché, nous devenions mortels. C'est faux! Nous lisons pas bien la Bible. Nous lisons la Bible en fonction de notre croyance et nous déformons les textes. Nous croyons que c'est dû au péché que nous sommes devenus mortels. Je parle ici de la mort physique. Mais le texte de Paul ici nous montre clairement tout à fait autre chose. Le verset 55 qui est très connu de tout le monde, où il est dit « Mort, où es-tu ? Mort, où est ton aiguillon ?» Cela signifie que la force de la mort, ou le venin mortel qu'elle avait, et je mets au passé, qu'elle avait, elle ne l'a plus maintenant. Lui a été ôté de force. Et sans cet aiguillon, la mort n'est plus ce qu'elle est. Ici, le cri de victoire poussé par Paul n'est pas juste, j'emprunte cette expression, un haka des All Blacks. Vous voyez le haka là, avant le match, qui font des cris de combat pour intimider l'adversaire ou se donner du courage. Ça n'a rien à voir. C'est pas juste, allez, il faut que je sois fort face à la mort. Et je dois crier, mort, où es-tu? Mort, où est ton aiguillon? Non, c'est une vraie victoire. C'est réellement un cri de victoire et non philosophique ni abstrait. Il y avait un pasteur qui avait prêché ceci, parlant de la victoire de Jésus sur la mort. Il disait, Jésus s'est complètement jeté dans la gueule du loup quand il était mort à la croix. Et comme le dit notre confession de foi, disait-il, de symbole des apôtres, il est descendu aux enfers, c'est-à-dire qu'il est parti au cœur même de la mort. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. C'est ce que nous proclamons dans notre confession de foi. Est-ce que les croyants comprennent bien cette phrase ? Il est descendu aux enfers et il est ressuscité d'entre les morts. Que signifie cette phrase de notre symbole des apôtres ? Jésus est allé jusqu'aux enfers, dans le séjour des morts, pour lui casser ses dents, disait ce pasteur. Afin que la mort ne soit plus une malédiction pour l'être humain, surtout pour le croyant, mais qu'elle redevienne, et je souligne, redevienne un plan de salut, qui redevienne au plan initial de Dieu avant la chute. Et ce quoi ce venin qui lui a été arraché au séjour des morts, c'est le péché. Il a ôté la force, c'est-à-dire que la force de la mort, c'est le péché. Et une fois que le péché a été crucifié à la croix, la mort n'a plus de force. D'où le cri de victoire, « Mort, où es-tu ? Mort, où est ton aiguillon ?» Je reviens à ce que j'ai dit précédemment sur la fausse croyance que nous avions depuis toujours, la croyance de l'homme sur l'immortalité. D'ailleurs, l'homme a toujours cette tendance d'aller vers l'immortalité, la quête de l'immortalité. Est-ce que l'homme a été créé immortel? Je ne le crois pas dans ma lecture personnelle de la Bible. Le récit de la création le montre bien, ainsi que la chute de l'homme. Revenons au texte de la Genèse. Vous allez peut-être me dire, mais c'est faux ce que vous dites. Dieu avait mis en garde Adam et Ève, rappelez-vous. Le jour où tu vas manger de ce fruit, dans notre traduction française, peu importe les versions, toutes les versions sont unanimes, tu mourras certainement, n'est-ce pas? Il ne dit pas tu mourras peut-être, ou tu mourras, mais il rajoute certainement. Et là, il y a un problème dans cette traduction. Bien sûr, qui dit traduction, trahison. Dans nos traductions, on a arrondi le texte, tu mourras certainement. Tandis que, si on revient dans le texte hébreu, le texte original, il dit ceci, tu mourras et tu mourras. Or, dans la grammaire française, on n'aime pas dire tu mourras, ce n'est pas correct. Et on a arrondi pour que ce soit correct, grammaticalement parlant. Et pourtant, plus on a fait cela, plus on s'est éloigné du texte. Et les Hébreux, ils aiment bien répéter les mots parce qu'il y a un sens derrière. Tu mourras, c'est-à-dire tu mourras deux fois. Voilà ce que ça veut dire. Donc si moi je retraduis ce texte, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras deux fois. C'est-à-dire que la conséquence du péché est cette deuxième mort et non la première mort. C'est ce que Dieu a dit. Ce qui implique que la première mort, et je mets entre guillemets le mot mort, elle est naturelle. Ce n'est pas une sanction, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une malédiction. La mort physique fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie, les amis. Et c'est quelque chose de normal, puisque comme la naissance. Un jour, mon fils, il est là, Ezra, en sortant de l'école, il était choqué en disant, me poser la question. Mon instinct m'a dit que le soleil a une date de péremption. C'est-à-dire que le soleil va mourir d'ici quelques milliards d'années et avait une date précise. Est-ce normal? Je dis oui. Toute créature a un début, a une fin. L'homme aussi a été créé ainsi. Donc si le soleil a été créé dès le début, avant le péché, qu'il y a un début, il y a une fin, toute créature sous le soleil est conditionnée par cela. C'est biblique. Et le prophète Samuel l'a bien dit aussi, 1 Samuel chapitre 2, verset 6. Le Seigneur fait mourir et le Seigneur fait vivre. Le Seigneur fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Donc s'il y a naissance, il y a une fin. Mais ce qui est problématique, c'est que la mort a été pervertie. Et c'est là que le texte entre en jeu, par le péché, et cette perversion du péché qui a rendu la mort comme une malédiction. Comme il l'a aussi fait avec la transformation du travail. Souvent, on croit que le travail est une malédiction, puisqu'il faut travailler du sueur de son front. Non, lisez bien vos textes. Avant le péché, le travail était déjà là. Tu travailleras le jardin, tu t'en occuperas, et tu seras béni de ton travail. Donc le travail n'est pas la conséquence du péché. Le travail, c'est une bénédiction. Mais quand le péché est entré dans le monde, le travail devient pénible. Le travail devient un fardeau. Le travail devient un poids. Même chose aussi, le fait d'avoir un enfant. C'était une bénédiction. Mais une fois que le péché a mis en cause cela, c'est devenu un problème. La femme doit passer par ce moment terrible. Et aussi la mort, qui était prévue dès le début. Mais une fois que le péché a mis aussi sa marque, alors ça devient pénible. Et ainsi de suite. Donc si Paul exalte en criant « Mort, où est ta victoire ?», c'est parce que le Christ a redonné sens à la vie. À redonner vie à ce que c'est que la vraie vie. C'est quoi la vraie vie? Et à part la vie éternelle dans le royaume des cieux, ça tout le monde le connaît, je pense que Dieu nous donne déjà ici-bas une possibilité de vivre, la vraie vie et non la fausse. Jésus lui-même avait dit ceci dans Jean chapitre 10, verset 10. « Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Comment expliquer ce texte ? La vraie vie dans la vie. Je l'illustre, la vie avec le Christ, comme le sel que nous mangeons, le sel de cuisine. Vous préparez un bon menu. Le sel est l'élément le plus insignifiant en matière de prix. C'est le moins cher. Abordable pour tous les ménages. Par rapport aux nourritures principales, toutes les nourritures que vous avez dans votre cuisine, c'est le plus un peu mis de côté. Mais une fois que le sel est absent, même si vous achetez tout ce que vous voulez, avec le menu d'un chef étoilé, le plus succulent, ce repas perd sa saveur. Pour juste pour ce sel qui ne coûte même pas quelques centimes. Et vous allez mettre à la poubelle tout ce que vous achetez. Vous avez acheté une centaine d'euros. C'est ça la vraie vie dans la vie. Ce sel qui est ignoré, qui est mis de côté et qui pourtant rend la vie meilleure. Paul dit que celui qui est inébranlable, ferme et qui trouve que ce qu'il fait n'est pas inutile, malgré ce qu'on va lui dire, c'est quelqu'un qui a su se libérer du venin de la mort. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de la mort, c'est très large. Il ne faut pas seulement se limiter au fait qu'on ne vit plus. Tout ce qui pourrait pourrir notre vie, cela ne nous atteindra plus, dit Paul, quand on a trouvé le vrai sens de la vie. Vous vous rappelez le riche qui posait la question à Jésus, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Mais qu'est-ce qui a tracassé la tête de ce riche ? Il avait tout. Et quand je dis tout, non seulement en matière financière, il avait de l'argent, il est connu, il est respecté de tout le monde, que demande le peuple, comme on dit. Et en plus, il avait tout aussi, puisqu'il a posé la question, « Tout ce que tu me dis là, je l'ai fait pendant toute ma jeunesse. » Donc, moralement, c'est un homme exemplaire. Matériellement parlant, c'est quelqu'un qui est abouti. Donc, il est parfait. Mais non, il ne dormait pas la nuit. Je dois voir le maître. Qu'est-ce que je dois faire en plus ? C'est parce que l'essentiel n'est pas là. Et pourtant, il a tout. Il croyait tout avoir. Tout, y compris les normes, y compris l'argent. Mais il n'avait rien. Et regardez bien ce qui s'est passé dans ce texte. Jésus le regarda et l'aima. Juste cette partie-là. Il posa la question, « Qu'est-ce que je dois faire ?» Et Jésus le regarda, le fixa du regard et l'aima. Tout est dans ce regard de Jésus. C'est comme s'il disait, « Tu as tout compris, il te manque l'essentiel. » Et là, Jésus lui a dit, « Va vendre tout ce que tu as et tu auras ta part dans le ciel. » La question se pose à toi aussi ce matin, avant que je termine. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Et je parle ici d'éternel, pas le ciel, mais la vie en abondance, la vraie vie. Que dois-je faire pour vivre la vraie vie ? Ce sel qui ne coûte rien du tout, mais qui dépend toute chose de ta vie. Pose cette question à Jésus et il va te fixer du regard. Et il va te dire, il te manque une chose, mon enfant. Et il te le dira quoi ? Amen.